C'est donc au numéro 9 de ce document, la bulle d'indiction. Voici ce qui est écrit. Regarder l'avenir avec espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Donc, regarder l'avenir avec espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Une vision de la vie pleine d'enthousiasme. Et peut-être quelque chose de prophétique aussi, là, hein? Dans le monde d'aujourd'hui, une vision de la vie pleine d'enthousiasme. Non pas simplement à la voir, nous dit le texte, mais à transmettre. Et si nous voulons transmettre cette vision de la vie avec enthousiasme, il faut que nous-mêmes déjà nous soyons avec enthousiasme dans cette vie. Que nous ne soyons pas là simplement pour subir la vie, mais pour en être les artisans, les bâtisseurs. Et tout de suite après, il y a une phrase qui prend le contre-coup, on pourrait dire, nous devons malheureusement constater avec tristesse que dans de nombreuses situations, cette vision fait défaut. Ce n'est pas la première fois que vous entendez qu'il y a toute une série de questions autour de la vie, de la beauté de la vie, de la défense de la vie qui se posent à notre société contemporaine. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous taire. Il y a cette fameuse phrase des Actes des Apôtres à laquelle je reviens souvent quand Pierre les gens sont arrêtés, enfermés, on les a un peu battus quand même pour qu'ils comprennent la leçon. Et puis finalement, on leur dit, écoutez, on est prêt à vous relâcher, mais à une condition, c'est que vous arrêtez de parler de ce fameux Jésus, quoi. Et Pierre et Paul répondent, faites-nous tout ce que vous voulez, quant à nous, nous ne pouvons pas nous taire. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est pas une parole qui concerne simplement un événement d'il y a un peu plus de 2000 ans, c'est une parole qui nous rejoint dans notre actualité. Nous ne pouvons pas nous taire. Et surtout, non seulement nous ne pouvons pas, mais nous ne devons pas nous taire. Toujours vous rappelez ce qu'on soulignait, ce que je soulignais déjà hier, avec respect et souci d'instruire. Et dans cette vision enthousiaste de la vie, le champ est immense. Et ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Qu'est-ce qui fait que nous avons une vision enthousiaste de la vie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes heureux de vivre? Évidemment, la réponse chrétienne, c'est cette certitude que le Christ est là avec nous et nous invite à collaborer avec lui. Il est là et il nous dit à toi maintenant de continuer à travers le temps, à travers l'espace, ce qui a été initié lorsque j'étais parmi vous. C'est lui qui est le fondement de notre espérance et c'est lui aussi qui est le fondement de notre joie. Et ça nous renvoie à notre propre responsabilité, que j'essayais déjà de souligner hier, à l'égard du monde et donc à l'égard des autres. Et là, je voudrais vous citer un petit passage toujours de mon brave théologien suisse, Maurice Handel. Voici ce qu'il écrivait. Il parle de nous. Depuis l'ascension, le Christ ne peut être visible qu'à travers nous. C'est ce qu'il y a de plus bouleversant, de plus magnifique, que l'incarnation se continue à travers nous. Tout le mystère de l'Église, c'est cela. Par conséquent, chacun de nous est le visage du Christ pour les autres. Vous êtes le Christ des autres. Ils n'ont pas d'autre Christ que vous, parce que c'est uniquement à travers vous qu'ils voient le Christ. Ça fait partie de ces phrases. Oui, on les trouve très belles. Mais quand on se dit, mais c'est de moi dont il est question. On a peut-être un peu l'impression que ça nous dépasse. J'allais dire, et heureusement, heureusement que ça nous dépasse, parce que sinon, si nous disons, oui, je suis tout à fait conscient que je suis le Christ, quoi. Là, il faudrait un peu tempérer, hein. Il est bon que cela nous dépasse, mais pas à nous dépasser au point de nous dire, puisque ça me dépasse, c'est pas pour moi. Ça me dépasse comme une puissance d'amour qui m'attire et qui m'invite à rejoindre ce sommet. Et vous voyez cette responsabilité. Les autres n'ont pas d'autre Christ que nous pour rencontrer le vrai Christ. Ça dit quelque chose de fort, il me semble, de cette mission qui est la nôtre au cœur de ce monde. Qu'est-ce qui fait, on pourrait analyser certaines choses, mais qu'est-ce qui fait que dans notre monde, le désir de transmettre la vie ne soit plus présenté comme un bien? Il m'était arrivé d'animer une autre week-end ici sur cette question-là. Et je me suis rendu compte en cherchant dans certains documents que dans certains pays, que nous avons une certaine tendance à imiter d'ailleurs, il y a des mouvements qui se créent. Il y en a un qui s'intitule le mouvement de l'engagement vert afin de ne pas avoir d'enfants. Je ne pourrais pas vous donner les coordonnées si vous vouliez être membre de ce mouvement, mais hein, le mouvement, l'engagement vert pour ne pas avoir d'enfants. Et le leitmotiv, c'est ce monde sera meilleur s'il est moins peuplé. Mais si plus personne n'a d'enfants, le monde meilleur, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui va en rester et de quoi on parlera quand on parlera alors du monde. Enfin, il n'y aura même plus personne pour en parler, donc ça sera réglé. Alors c'est évidemment très prophétique que nous soyons invités à regarder l'avenir avec espérance. Quand Dieu nous regarde, il regarde l'avenir avec espérance. Une autre façon de dire que l'homme est l'espérance de Dieu. Et vous voyez quelle espérance nous est confiée. Ce Dieu qui est créateur et qui maintient dans l'existence, il nous dit à toi. C'est en toi qu'est mon espérance, pour que cette beauté de la vie soit aujourd'hui vécue et transmise. En revenant à ce document, voilà l'invitation qui nous est adressée. Chacun a besoin de retrouver la joie de vivre, car l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne peut se contenter de survivre ou de vivoter, de se conformer au présent en se laissant satisfaire de réalités uniquement matérielles. Ne nous satisfaisons pas de survivre ou de vivoter, alors que ce qui nous est offert, c'est la plénitude de la vie. Don de Dieu.
De quoi?
La plénitude de la vie, ben c'est ce projet de Dieu, ce projet de vie éternelle. Ce projet de vie éternelle, vous avez entendu hier au cours de la veillée de l'espérance, c'est encore lié au baptême. Que demandez-vous la foi? Que donne la foi la vie éternelle? C'est ça la plénitude de la vie. Hein, c'est pas considérer que notre vie n'est marquée que du point zéro de notre conception, et en disant cela, je prends déjà parti. De notre conception jusqu'au terme naturel de notre vie sur terre. Nous sommes sur une trajectoire d'éternité. La vie éternelle, c'est pas pour demain. Soit la vie éternelle, c'est aujourd'hui, soit elle n'est pas. Nous sommes déjà dans l'éternité. Et qu'est-ce que c'est que cette éternité? Comment elle se manifeste, cette éternité? Par la qualité, justement, de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, accomplir un acte avec amour, c'est ça l'éternité. C'est ce que signifie justement ne pas se contenter de survivre ou de vivoter. Je fais les choses parce que je dois les faire, parce qu'il y a une règle qui dit que je dois. Je fais ces choses-là avec amour et ça donne un sens à ce que je suis et pas seulement à ce que je fais. Donc c'est prendre en compte justement cette dignité unique de toute personne humaine. Vous savez, quand le pape François, je sais qu'il a souvent agacé par ses prises de position, mais quand on est agacé, c'est que quelquefois on a peut-être été piqué là où on avait besoin. hein, quand il parlait de la culture du déchet. Je te considère tant que tu es utile. Le jour où tu ne m'es plus utile, la culture du déchet, je prends et je jette. Alors, tant que c'est à l'égard d'objets, bon, se dire, il y a peut-être d'autres manières de faire. Mais quand ça devient à l'égard des personnes, donc, voyez, ça nous invite à prendre conscience de cette dignité unique de l'être humain, de toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là, pour nous, le fondement de notre regard sur l'autre. Ce ne sont pas des raisons philosophiques ou je ne sais quoi, c'est cette certitude que tous nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que donc, en l'autre, en tout autre, qu'il soit productif ou pas, qu'il soit utile ou pas, vous pouvez faire toutes les distinctions que vous voulez, en tout autre, Dieu est là. La grâce que nous avons, mais c'est aussi, comme toute grâce, une responsabilité, c'est de le savoir justement. Et de croire en cela. Et le fait de le savoir et de le croire nous rend responsables de la transmission. On revient toujours à cette chaîne de transmission. On nous a beaucoup dit que le XXe siècle était victime du manque de transmission. Donc, non pas survivre, non pas vivoter, mais être dans cette plénitude de vie. Avoir cette conscience que cet instant que nous vivons, il a une valeur d'éternité, par la qualité de notre présence, par la qualité de notre amour, par la qualité de notre volonté de correspondre au désir ou à la volonté de Dieu. L'histoire sainte du peuple de Dieu, ce n'est pas uniquement celle qui est écrite dans ce fameux livre que l'on appelle la Bible. Hein, je dis souvent, le livre des Actes des Apôtres, on en connaît les premiers chapitres. Mais nous sommes en train d'écrire la suite de ces premiers chapitres. Alors bien sûr, comprenez la distinction avec les textes de la parole de Dieu que la liturgie nous offre. Mais en fait, ce que nous vivons, c'est la continuation des Actes des Apôtres. Et oui, le titre qui est donné à ce livre, c'est déjà tout un programme. Les Actes, ils ne se sont pas contentés de parler. Ils ont posé des actes. Et notre situation aujourd'hui, la vie de l'Église aujourd'hui, c'est la continuation du livre des Actes des Apôtres. Certains théologiens disent l'Église, c'est l'Évangile continué. Et toutes les interventions de Jésus, c'est pour éveiller à cette présence de la vie qui est offerte et d'une vie qui n'a désormais plus de terme puisqu'elle est éternelle. Oui, l'enjeu est d'importance là, pas simplement pour l'avenir de l'Église, mais pour l'avenir de l'humanité. Ne nous contentons pas de survivre ou de vivoter, de nous conformer au présent. Hein. Ne nous contentons pas de nous conformer à ces modes qui nous écrasent, parce qu'elles s'imposent à nous avec beaucoup de force et de moyens. Hein, rappelons-nous toujours la petite fleur qui est capable de traverser l'épaisseur du goudron. Hein, c'est une belle figure de l'espérance aussi, ça. Peut-être qu'on a l'impression aujourd'hui d'être écrasé par cette culture qui nous entoure. Ben non, ne nous laissons pas prendre au piège d'avoir ce genre d'attitude. Nous sommes cette petite fleur qui ne demande qu'à sortir pour donner une espérance à ce monde. Et dans un autre de ces documents, le pape François disait que si nous nous contentons de survivre ou de vivoter, finalement, nous allons tomber dans l'indifférence. Et il a beaucoup parlé de cette maladie de l'indifférence. L'indifférence à l'égard de l'autre. Vous savez, le fameux ben, « j'y peux rien », quoi. Rappelons-nous aussi cette fameuse question qu'on lit dans le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, chapitre 4. Où est ton frère? Réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Eh oui, tu es le gardien de ton frère. Et en reprenant ces questions, le pape disait, en posant cette question, Dieu met en cause tous les germes de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l'indifférence comme la seule réponse possible. Hein, le drame de cette indifférence. Je peux vous dire qu'ici, une des choses que l'on entend très régulièrement, c'est la souffrance de la solitude. Pas simplement parce que nous sommes dans un lieu retiré, hein, mais par les gens qui viennent là et qui disent un peu ce qu'est leur vie. L'indifférence. Le fait d'avoir l'impression de ne compter pour personne. De ne pas exister d'une certaine manière. Oui, notre regard d'espérance, être pour eux des signes d'espérance, c'est leur rendre déjà cette dignité d'exister. Toute la dimension de l'écoute, ça a cette finalité-là. Je prends du temps pour écouter. Et en écoutant ce que tu me dis, je reconnais que tu existes. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si facile d'écouter, parce que bien souvent, on entend une phrase et puis déjà, on est parti vers la réponse qu'on va déverser. Et on n'a pas tout écouté. Ça a été une des méthodes du dernier synode. C'est dans toutes les réunions synodales qui ont été organisées à travers le monde, le principe, c'était chacun parle et personne n'intervient dans ce qui vient d'être dit. Personne ne se croit autorisé à dire « Mais non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire ou qu'il faudrait… » Non, j'écoute ce que toi tu dis. Puis ensuite, j'écoute ce que ton voisin va dire. Alors bien sûr que ça prend plus de temps que d'avoir simplement un maître qui nous dit « Ah bien, désormais, vous devez penser ainsi. » Vous savez, c'est ceux qui vous disent « Moi, je suis toujours d'accord avec les autres, surtout quand ils pensent comme moi. » Non, ça prend du temps, l'écoute. Mais ça prend du temps aussi de rendre la dignité d'être à l'autre. Hein, combien de personnes sont blessées et profondément parce qu'elles ont l'impression de ne compter pour personne. D'où la nécessité, et c'est peut-être aussi une façon d'être signe d'espérance et de transmettre cet enthousiasme de la vie, la nécessité de prendre soin de l'autre. Prendre soin. Développer une culture du soin. Et pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui restait très très présent tout au long du ministère du pape François, dans le message qu'il a écrit pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2021, il disait ceci: il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité, une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement, souvent prévalente aujourd'hui. Une culture du soin pour sortir de cette culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement. Et la culture du soin commence par la prise en compte de la dignité de l'autre et du respect qui lui est dû. Peut-être pense-t-il différemment que moi, peut-être agit-il différemment que ce que j'aurais fait, peut-être a-t-il choisi des chemins de vie qui me paraissent étranges, mais il est une personne. Et Dieu ne l'a pas laissé sur le chemin parce qu'il ne pense pas comme moi. Dieu est là. Vous savez, c'est aussi cette fameuse attitude de... Il faut prendre ça au niveau symbolique, bien sûr, mais ça dit quelque chose de profond. Quand Moïse est au pied de l'Horeb et qu'il découvre ce fameux buisson qui ne cesse de brûler, pour lui, c'est un signe éloquent, ce buisson qui ne se consume pas. Et tout de suite, il a la, la certitude que Dieu est là. Et puisque Dieu est là, que fait-il? Il se prosterne. Premier geste. Faites pas dérouler les siècles. Au cours du dernier repas, Jésus va aussi se prosterner devant ses disciples. Parce qu'il sait que Dieu est là. Et c'est lui qui se met à leur laver les pieds. Mais l'attitude inspirée par cette certitude que Dieu est présent en toute personne humaine, en rencontrant l'autre, intérieurement bien sûr, je me prosterne parce que Dieu est là. Et c'est l'attitude du missionnaire d'ailleurs. Le missionnaire, on a peut-être un peu imaginé que c'est celui qui sait et qui se déplace pour aller à dire à ceux qui ne savent pas quelque chose. Transmettre le message. Non, le missionnaire, la première action du missionnaire, c'est en rencontrant l'autre, de l'aider à découvrir que Dieu est déjà là. Ce n'est pas le missionnaire qui apporte Dieu. Le missionnaire, il aide à désencombrer peut-être, à nettoyer le terrain. Mais Dieu est déjà là. Vous voyez, c'est cette attitude qu'on peut avoir à l'égard des autres. En prenant conscience que en l'autre, en tout autre, Dieu est là. Ça nécessite assez souvent une certaine conversion du regard quand même, parce que ce n'est pas immédiat chez nous. Enfin, peut-être que chez vous, oui, mais pas toujours chez moi en tout cas. Dieu est là. Et si Dieu est là, je ne peux pas être indifférent à cette présence, même si elle me dérange. Vous voyez, cette importance de la culture du soin. Et vous voyez toutes les conséquences, y compris dans certains domaines. Si Dieu est là, alors je peux comprendre les positions de l'Église en disant non, sur la personne humaine, ceci, ce n'est pas tolérable. La question, c'est de savoir, est-ce que nous croyons fermement que Dieu est là? Pas simplement dans ceux que j'ai choisis, mais dans tous ceux et celles que je rencontre. Hein, toutes les questions liées, par exemple, là aussi ça m'a assez bouleversé quand j'ai découvert cela, toutes les questions qui se posent, à partir de quel moment peut-on parler d'une personne humaine? Parce que finalement, ça commence là, l'enthousiasme par rapport à la vie. La tradition de l'Église et l'enseignement de l'Église n'a cessé de redire que c'était dès l'instant de la conception. Alors, je vais vous citer quelques textes contemporains. Un organisme ne possède un droit sérieux à la vie que s'il possède le concept de soi en tant que sujet continu d'expérience. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais vous voyez que si j'applique cette phrase, il y a déjà toute une partie de la population qui est éliminée. Un sujet mental pour être une personne humaine, voilà la définition de certains praticiens. Un sujet mental qui perdure dans le temps, qui a le désir de continuer à vivre, qui est un être autonome, capable de faire des choix. Vous en éliminez encore une partie. Un individu qui devient une personne seulement quand il devient un agent moral responsable, aux alentours de 3 ou 4 ans. Si je lis bien, aux alentours de 3 ou 4 ans. Donc, avant ces 3 ou 4 ans,
culture du rejet.
Ça, c'est pas mal non plus, et c'est un des grands philosophes de certaines universités. Il est raisonnable de décrire l'infanticide comme un avortement postnatal. L'infanticide est en fait une chose très humaine lorsqu'il s'agit d'enfants mal engendrés. Nous devrons peut-être l'encourager sous certaines conditions, en cas d'excès de population, et en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants défectueux. Mais qui a l'autorité pour décréter qu'un enfant est bien engendré ou mal engendré ? Défectueux à partir de quoi, en fonction de quel repère ? C'est un certain Joseph Fletcher qui a écrit cela, qui est un des grands philosophes, c'est au moins ce qui se... Oh, c'est actuel, là, c'est 70 ou 80. Si vous voulez vous... Je ne vais pas vous délecter, mais si vous voulez vous renseigner un petit peu sur toutes ces questions, il y a un livre qui me paraît assez bien et fondé et sérieux, d'une Véronique Bournino. Elle a écrit un livre dont le titre est déjà tout un programme, « Contre la détestation de l'homme par l'homme ». Et elle vous donne toutes ces citations et tous ces exemples. Et elle fait ça dans une démarche tout à fait chrétienne. Un autre, c'est un James Watson, écrivait ceci, « Nous devons reconsidérer nos conceptions de base sur le sens de la vie. » Merci, monsieur. Peut-être, comme mon ancien collègue Francis Crick le suggérait, personne ne devrait être considéré comme vivant jusqu'à 3 jours environ après la naissance. Si un enfant n'était considéré, mais c'est logique dans leur façon d'être, de penser, si un enfant n'était considéré comme légalement né que lorsqu'il a 3 jours, alors tous les parents pourraient avoir un choix que peu ont dans le système actuel. Alors les médecins pourraient permettre à l'enfant de mourir si les parents en décidaient ainsi, et éviter ainsi beaucoup de misère et de souffrance. C'est avec une considération pour l'humanité qui est magnifique. Vous voyez, c'est, pour vous éviter de souffrir, autant vous tuer tout de suite, quoi. Vous voyez la dimension prophétique d'être appelé à transmettre l'enthousiasme de la vie, c'est pas rien. Il y a tout ça derrière. Il y a toutes ces forces qui sont derrière. Alors peut-être ça nous paraît un peu naïf, il faut transmettre la beauté de la vie, mais ça n'a rien de naïf, c'est la prise en considération de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et il y a une parole courageuse à faire entendre. Et ce sont ces gens-là qui façonnent la pensée d'un certain nombre d'universités, et donc de jeunes, et voilà, et la culture de ce temps. Cette nécessité pour nous et cette urgence pour nous de nous tenir déjà informés de ce qui est écrit, de ce qui se dit, de ce qui s'enseigne. Alors, le but, évidemment, ce n'est pas de pourfendre ces gens-là, mais c'est avec la conviction de notre foi d'affirmer la beauté de la vie. Et si vous lisez le texte, vous verrez qu'après, il y a toute une série de... Le besoin de retrouver la joie de vivre, être des signes tangibles d'espérance, et en particulier à l'égard des jeunes. Il est triste de voir des jeunes sans espérance. Le pape parle d'un engagement social pour l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas simplement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Importance de donner cette conception enthousiaste de la vie. Oser dire qu'il est bon et qu'il est beau de vivre. La culture du soin. Dans un de ses autres textes, il avait quand même l'art de certaines formulations, le pape François, il disait ceci. « Nous aussi, disciples du crucifié, nous sommes appelés à être des arbres de vie. » Vous avez bien écouté la suite de l'image. « Nous sommes appelés à être des arbres de vie qui absorbent la pollution de l'indifférence et restituent au monde l'oxygène de l'amour. » Restituer au monde l'oxygène de l'amour. Et sans oxygène, la vie humaine est quelque peu menacée. Eh bien, sans amour, la vie humaine est elle aussi menacée. Absorber la pollution de l'indifférence et restituer l'oxygène de l'amour. Faire face à la grande maladie de notre époque, l'indifférence. C'est un virus qui paralyse, qui rend inerte et insensible, un mal qui attaque le centre même de la religiosité, provoquant un nouveau paganisme extrêmement triste, le paganisme de l'indifférence. Ça fait partie de ces phrases choc. Mais le projet est beau, restituer l'oxygène de l'amour. Voilà, c'est ça aussi être signe d'espérance. Restituer dans le monde d'aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres, dans la société à laquelle nous appartenons, restituer l'oxygène de l'amour. Le projet chrétien n'a jamais été de s'extraire du monde actuel pour construire un monde parallèle, mais d'être dans le monde sans appartenir au monde. Voilà, c'est ça la pédagogie chrétienne. Et c'est ça aussi la pédagogie de l'espérance. Rester dans ce monde qui est le nôtre, avec ce beau projet de devenir pour les autres signe d'espérance. Là, je vous donne 4 conseils, je les ai trouvés, c'est le fameux dont je vous ai déjà parlé hier, Emmanuel Tourpe. 4 conseils pour qu'advienne en nous la joie et que s'accomplisse notre espérance. Première chose qu'il nous dit, c'est « Ne dis pas « je voudrais bien », mais dis « je veux ». Vous savez, il arrive quelquefois dans l'Évangile, Jésus appelle la réponse « je te suivrai ». C'est pas la réponse que Jésus attend. La réponse qu'il attend, c'est « je te suis ». Je te suivrai, que ce soit un futur ou un conditionnel, c'est pas la réponse que Jésus attend de nous. La seule réponse qu'il attend de nous, c'est celle du présent. Je te suivrai. Mais laisse-moi d'abord. J'ai encore autre chose à faire avant. Non, je te suis. Ne dis pas « je voudrais bien ». Mais je veux. Et il dit ainsi, nous exercer à passer de l'intention à la réalisation. Avoir déjà une bonne intention, c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle se réalise. Vous vous rappelez peut-être quel est le lieu qui est pavé de bonnes intentions. Donc, l'intention, oui, c'est le déclic. Mais en vue de la réalisation, de la concrétisation, de l'accomplissement. Le temps dans lequel nous vivons n'a rien de virtuel. Nous ne vivons pas dans un monde conditionnel, mais nous vivons dans le réel et dans le présent. Découvrir la valeur du présent. C'est ça aussi, redécouvrir l'enthousiasme de la vie. La valeur, la beauté du présent. Souvent, mais c'était quand même bien mieux autrefois. Oui, mais dans 20 ans, ça ira mieux. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La valeur du présent, parce qu'en fait, c'est ce présent que nous allons animer, habiter, par la présence et l'amour de Dieu, qui prend une valeur d'éternité. Et si le présent prend une valeur d'éternité, alors l'éternité n'a pas besoin ni du passé ni du futur. S'il y a des dictées au ciel, ça doit être très facile, parce que tous les verbes ne se conjuguent qu'au temps présent. À redécouvrir la beauté du présent et la responsabilité que j'ai à l'égard du présent. Si je ne fais pas en sorte que ce temps présent qui est le mien soit qualifié par l'amour, eh bien, ce temps, je ne vais pas pouvoir le récupérer. il m'appartient d'une certaine manière de donner à ce temps sa vraie dimension. C'est ça, être les artisans d'un monde nouveau. Le pape Jean-Paul II parlait souvent de ce désir de voir advenir la civilisation de l'amour. On en est encore assez loin. Bon, on a l'intention, à nous maintenant, de tout faire pour passer à l'accomplissement. Et quand nous disons dans notre prière quotidienne, eh bien, que ton règne vienne, est-ce que ce n'est pas ça que nous souhaitons finalement ? Que la présence de Dieu soit visible et, j'allais dire, repérable en chacune et chacun de nous. Rappelez-vous le texte que je vous ai lu. Les autres n'ont pas d'autre Christ que vous. Donc c'est bien une responsabilité pour chacun de nous, certes dans la diversité de nos vocations personnelles. Tous nous avons une vocation différente, mais cette différence n'est pas en vue d'une concurrence, elle est en vue justement de l'accomplissement de la même mission. La différence au service de l'accomplissement de la mission unique. Donc non pas « oui, je te suivrai », mais « je te suis ». Vous savez, on dit qu'il y avait un barbier qui affichait sur la porte de son négoce tous les matins « aujourd'hui on paie, demain gratis ». Et tous les matins, il remettait la même chose. Deuxième conseil, ne pas douter de la toute-puissance de l'amour. Deuxième conseil, ne pas douter de la toute-puissance de l'amour. En vous référant peut-être au texte que je vous ai donné pour hier, c'est au nom de l'amour que l'on reconnaît en l'autre cette présence qui m'est indispensable. C'est au nom de l'amour qu'on passe au-dessus des épreuves, des difficultés, parfois des incompréhensions. On a peut-être beaucoup parlé de la toute-puissance de Dieu. Alors, on a des images d'un Dieu tout-puissant. Mais le fameux Maurice Handel disait toujours « Oui, il est tout-puissant, mais n'oubliez pas d'ajouter « tout-puissant en amour ». C'est la toute-puissance de l'amour, parce qu'aujourd'hui, il y en a des personnes qui se croient toute-puissantes, pas nécessairement au service de l'amour. La toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de l'amour. Donc, non pas une force qui s'impose, qui méprise, qui détruit, mais la force qui se met au service. La toute-puissance, vous imaginez, la toute-puissance de l'amour témoignée par Jésus alors qu'il se met à genoux devant celui qui va le trahir, le renier, l'abandonner pour lui laver les pieds. C'est là que la toute-puissance de l'amour se manifeste. Et quand Pierre va rencontrer Jésus après la résurrection, je ne sais pas si... Qu'est-ce que j'aurais dit, moi, à quelqu'un qui m'a trahi à ce point ? Je ne suis pas sûr que la seule chose que je lui aurais demandé, c'est « est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Je lui aurais d'abord fait entendre ce que je pensais de lui. La toute-puissance de l'amour. Après tout ce qui s'est passé, c'est Jésus qui se fait encore mendiant d'amour et qui vient solliciter l'amour de Pierre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? La toute-puissance de l'amour à l'égard de celui qui est crucifié avec Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être que nous aurions dit, bon, après tout ce qu'il a fait, quand même, ça serait bien qu'il en bave un peu, quoi. Hein ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. La toute-puissance de l'amour. Et vous pouvez relire l'Évangile ainsi, les paraboles de l'ouvrier de la 11e heure. La toute-puissance de l'amour, c'est de donner tout ce qu'il est, quelles qu'en soient les conditions. que tu sois arrivé à la première ou à la 11e heure. Alors humainement, bien sûr que ça nous paraît un peu injuste. Nous, ça fait depuis toute la journée qu'on en bave. Et lui, il arrive au dernier moment, voilà. Eh bien, c'est la toute-puissance de l'amour. Et tu n'as pas à te plaindre puisque tu es associé au même amour. Vous voyez qu'affirmer la toute-puissance de l'amour, ça nous engage, nous aussi, à l'égard de la façon dont nous vivons cet amour avec les autres. Donc, non pas un Dieu qui s'impose, mais un Dieu serviteur. Et avec cette phrase finale de Jésus, après avoir accompli ce geste surprenant du lavement des pieds, et là, c'est la phrase qui vient nous rejoindre dans notre responsabilité, « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez les uns pour les autres ce que j'ai fait pour vous. » Donc, quand on va être en présence de celui, peut-être, qui va nous trahir, ou etc., c'est un exemple que Jésus m'a donné afin que je fasse pour les autres comme il a fait pour moi. Pas facile dans ces conditions de se mettre à genoux et dire « Bon, ben, je vais commencer par te laver les pieds. » Troisième conseil, ça rejoint d'une certaine manière ce que nous dit le pape aussi dans ce document, lorsqu'il lit l'espérance à la patience. Il écrit ceci, « Une vertu qui est étroitement liée à l'espérance et qui est la patience. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite. On n'a plus le temps de se rencontrer, et souvent même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de se parler calmement. La patience est mise à mal par la précipitation, causant de graves préjudices aux personnes. En effet, l'intolérance, la nervosité, parfois la violence gratuite surgissent, provoquant l'insatisfaction et la fermeture. Lier la patience à l'espérance. » Alors, quand nous avons des attitudes ou des paroles d'impatience à l'égard des autres, je sais bien que ça ne vous arrive pas, mais au cas où, à ce moment-là, il est bon de se rappeler la patience de Dieu à mon égard. Quelle patience il a, Dieu. Le troisième conseil, c'était, l'auteur que je vous citais, l'apprend chez Tolstoï, c'est assez surprenant, il écrit ceci, « Les plus forts parmi les guerriers sont le temps et la patience. » Le temps et la patience, comme remède au tout de suite, à cette immédiateté qui nous paraît vraiment aujourd'hui indispensable. Ça me rappelle ce fameux proverbe que l'on entend souvent, mais vous avez la montre, nous avons le temps. Puisqu'on en est même arrivé à nous minuter en disant qu'une bonne homélie ne doit pas dépasser 8 minutes. Vous voyez, ça ne m'a jamais préoccupé, je dois vous dire. Mais bon, enfin. Oui, on a besoin de tout minuter. On est pressé. Dès que la messe dominicale, ça déborde d'une heure, c'est déjà beaucoup, mais si ça déborde d'une heure, mais alors. Mais qu'est-ce qu'on va manger, quoi, hein? Voilà. Ouais. Ouais, peut-être une invitation à recadrer l'essentiel et le secondaire. La patience du semeur. La patience qui implique aussi la fidélité dans l'acte de semer, bien sûr. Hein, j'ai semé, je ne vois rien, donc je ne vais plus semer. Ben, alors là, tu es sûr que tu ne verras jamais plus rien. Sème. L'un sème, l'autre récolte. Et ça ne nous satisfait pas beaucoup. On aimerait bien être à la fois celui qui sème et celui qui récolte, comme pour pouvoir dire, ben, C'est pas grâce à moi, hein, quand même, qui a eu la récolte. Ben, c'est peut-être pour éviter ce piège de notre orgueil personnel, hein, que l'un sème et l'autre récolte. Et notre responsabilité, et c'est ce que vous vivez quotidiennement dans votre mission de parent, c'est de semer. La récolte, vous n'en êtes pas responsable. Votre responsabilité, c'est de semer. Après, il y a tout le chemin qui est fait, hein, par cette semence. Il y en a qui mettent un peu plus de temps à éclore. Mais toujours respect et patience dans l'acte de semer. Non pas la recherche de la satisfaction ou de la réponse immédiate, mais ne jamais se décourager de cette nécessité d'être semeur. Et là aussi, comme vous avez peut-être déjà compris que j'aimais jouer sur les mots, dans l'Évangile, il y a écrit, en parlant des disciples, « Voyez comme ils sèment. » Je vous laisse l'écrire. Vous avez deux possibilités. Hein? Voilà. C'est ça aussi la mission du disciple, c'est d'être celui qui sème et qui aime en semant. La semence jetée en terre avec amour ne peut pas ne pas porter du fruit. Pas nécessairement le fruit que nous avons prévu. Mais elle ne peut pas ne pas porter du fruit. J'ai découvert ces derniers temps un théologien, figurez-vous que c'est assez surprenant, c'est un théologien tchèque. Et il écrit ceci, et le titre de son livre est très joli, « Donner du temps à l'éternité ». Et il écrit ceci, « La foi, la véritable foi, est patiente. Bien plus, la foi est patience. » Rappelez-vous, la patience de Jésus entre le moment où il a choisi ses apôtres et le moment où il va les envoyer. Ça ne va pas toujours être une histoire tranquille. Satan, passe derrière moi. La foi, la véritable foi, est patiente. Bien plus, la foi est patience. De même que c'est dans la patience envers autrui que se montre et se prouve la force et l'authenticité de l'amour. La patience envers autrui comme étant le lieu où se prouve et se montre l'authenticité de l'amour du prochain. De même, c'est dans une certaine forme de patience envers tout ce qui, dans la vie, est difficile, dur et ambivalent, qui est présente, sous une forme cachée, implicite, anonyme, la foi. Et c'est dans cette patience, et peut-être surtout en elle, que se manifeste sa force et son authenticité. La patience comme étant le témoignage de la force et de l'authenticité de notre foi. Ce n'est pas parce que ceux qu'il a appelés n'ont pas tout compris dès le premier jour que Jésus les a renvoyés à la maison. Parce que les 12 suivants, il aurait fallu aussi les renvoyer à la maison. Hein, il a recommencé. Là aussi, je suis sûr que dans votre mission de parent, la patience est assez régulièrement mise à l'épreuve. Mais la vivre comme le moyen de montrer l'authenticité de l'amour. Tu n'as pas encore tout compris, mais parce que je t'aime, je te le redis une fois. J'aime beaucoup le passage dans l'Évangile où les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis voilà que Jésus leur dit, mais jetez le filet, quoi. Jésus, c'est l'homme de la ville. Hein. Les apôtres, ce sont les hommes du lac, ils connaissent leur métier, quoi. Peut-être qu'ils ont eu envie de lui dire, mais écoute, occupe-toi de tes affaires, on sait ce qu'on a à faire, nous, hein. Et j'aime beaucoup la réponse de Pierre, que je modifie un peu. Ce que tu nous demandes n'a aucun sens. Mais parce que c'est toi qui le demandes, je vais jeter les filets une fois de plus. Voilà. J'aime beaucoup cette réponse. Parce que c'est toi qui le demandes, je vais essayer une fois de plus. C'est ça toute la pédagogie de la patience. Le quatrième conseil, alors c'est un conseil qui vient de bien plus loin, puisque c'est Cicéron qui écrivait ceci, « Il n'y a rien que l'effort et l'amour ne puissent réaliser. » Suivre le Christ, c'est vraiment un engagement. Ce n'est pas un chemin de tout repos. C'est bien plus difficile que de monter au col de l'ange sous le soleil. Suivre le Christ, cela demande un effort. Un effort qui est le signe de notre engagement. Un effort qui implique toute notre personne. Un effort qui va venir éprouver, mais aussi bâtir et nourrir notre fidélité et notre persévérance. La vie chrétienne, c'est aussi un combat spirituel. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Ah ben vous, les chrétiens, c'est des réponses qui m'agacent et qui, dans certaines occasions, ont pu me blesser. Ah mais pour vous, les chrétiens, c'est facile. Qu'est-ce qui est facile ? Parce qu'on est chrétien, on vit à quelques centimètres au-dessus du sol et on passe devant les difficultés et rien ne nous touche. Non, il y a un combat spirituel. Saint Paul en parle d'une manière très claire. Donc il y a un effort, il y a un engagement, il y a une persévérance. Et le oui que nous prononçons en disant « Ben oui, Seigneur, je te suis », nous savons bien que il n'est pas suffisant de l'avoir dit une fois. C'est un oui à redire chaque jour. C'est peut-être la première chose que nous pourrions dire au Seigneur en nous réveillant, en nous levant le matin, plutôt que de commencer à dire « Ah ben, il fait chaud, il fait froid, il pleut ou je ne sais quoi. » Seigneur, je te dis oui. Le plus beau et le signe de notre confiance et de notre espérance, c'est que nous lui disons oui sans savoir la suite. Le oui a besoin d'être renouvelé, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être ravivé. D'où la nécessité d'être attentif à tout ce qui pourrait être simplement habitude, répétition. Vous savez, on a toujours fait comme ça, alors surtout ne changeons rien. Et dans le document, il est écrit ceci, « Le pèlerinage à pied, vous l'avez éprouvé ce matin, est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort et de l'essentiel. » Voilà, redécouvrir l'essentiel. Quand on regarde, notre journée, on se dit, oh là là, aujourd'hui, je me suis battu contre ce... Est-ce que ça valait vraiment la peine? Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir la réalité, mais est-ce que nous sommes sûrs de mettre l'essentiel là où il est vraiment? Est-ce que parfois nous ne confondons pas l'essentiel et l'accessoire? Et même l'engagement de Dieu à l'égard de l'homme, il y a un certain effort, on pourrait dire. Ce qui est demandé à Jésus, c'est quand même pas rien, la croix. Pour dire, j'envoie mon fils, tout va bien se passer. Rappelez-vous la parabole des vignerons homicides. Je leur envoie mon fils, celui-là, ils vont quand même l'écouter. Non. Et c'est pas parce que nous avons crucifié son fils que le Père a dit « Bon, allez, maintenant c'est terminé. » Oui, il y a un effort aussi dans l'engagement de Dieu à notre égard. Le salut du monde a un coût. Il a le coût de l'amour qui va jusqu'au don de soi. Donc à nous d'être non pas de ceux et celles qui se contentent de subir, mais d'être les conquérants de notre humanisation. À nous de collaborer à cette humanisation de notre temps. Et je vous renvoie à ce fameux texte pour terminer en vous recitant le numéro 9. Regardez L'avenir avec espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre.